Bonjour, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver. Le 13-14 continue d'aller à votre rencontre un peu partout en France. Aujourd'hui, c'est à Nîmes, une journée pour le climat sur France Inter, à 10 jours du coup d'envoi de la COP26 en Écosse. En cette mi-journée, nous posons cette question: comment adapter la ville au changement climatique? Ravagée par des pluies diluviennes en 1988, la métropole nîmoise est devenue exemplaire en la matière et nous avons donc posé nos micros juste à côté des arènes chez nos collègues de France Bleu Gard-Lozère. À suivre en reportage et en interview, témoignages d'habitants et de professionnels, explications d'élus et spécialistes sur les dispositifs mis en place, dispositifs d'alerte et de prévention, grands travaux. Premier reportage et questions dans un instant et plus longuement après 13h20, après le journal présenté par Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marion. La tempête Aurore, alerte levée, plus aucun département en vigilance orange, mais les rafales de vent à plus de 175 km/h ont fait beaucoup de dégâts. 120 000 foyers privés d'électricité et provoqué d'énormes perturbations sur les rails et sur les routes. Trafic SNCF coupé, une partie de la matinée. La situation s'améliore et record de bouchons également. Le prix de l'énergie et l'essence toujours plus cher au centre des sujets abordés par les 27 au Conseil européen de Bruxelles, aujourd'hui et demain. En France, on attend la réponse promise par le gouvernement à la flambée des prix de l'essence, chèque carburant ou dispositif pour soulager le budget des Français, le chèque carburant à la préférence de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Les accords de Nouméa sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie risquent d'être déstabilisés. Les indépendantistes du FLNKS appellent à ne pas participer au référendum du 12 décembre prochain. À la une également, la vaccination des 5-11 ans. Les États-Unis se disent prêts à vacciner les plus jeunes. Une mesure qui n'est pas d'actualité en France, selon Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Un tandem de journalistes à la tête du journal du dimanche et de Paris Match. Patrick Mahé à Match, Jérôme Bellet au JDD. Et puis, émoi dans le football anglais, le club d'Arsenal recrute un tout jeune footballeur, 4 ans, encore à la crèche. On vous raconte l'histoire en fin de journal, Marion.
Et à 13h53, un autre éclairage sur Nîmes, ville romaine. Le musée de la Romanité héberge dès le mois prochain l'exposition Femmes romaines, où l'on découvrira que ces femmes n'étaient pas seulement des matrones, mais aussi parfois des femmes d'influence et parfois même des chefs d'entreprise. Le 13-14, émission spéciale en direct de Nîmes. Vous avez le menu.
France Inter. Le 13-14.
On les voit dans plusieurs endroits de la ville, ces écussons frappés d'un crocodile, animal symbole de Nîmes, et apposés sur des poteaux, des plaques qui rappellent jusqu'où l'eau est montée lors des inondations d'octobre 1988. Elles avaient fait 9 morts, des dizaines de milliers de sinistrés. C'est une façon de prévenir les Nîmois qu'il faut rester sur ses gardes. Et effectivement, avec le réchauffement climatique, beaucoup de scientifiques annoncent une hausse du nombre de phénomènes météo extrêmes. Pour faire face, le chef-lieu du Gard propose le dispositif Nîmes à l'abri, des diagnostics et subventions pour réduire le risque inondation. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Spécialiste environnement de France Inter, vous nous accompagnez pour ce 13-14 spécial. Illustration encore de ces phénomènes extrêmes, le 16 septembre dernier, les habitants ont subi un épisode dit méditerranéen dans le sud de l'agglomération et ils s'équipent, Sandy.
Oui, il est tombé ce jour-là l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en l'espace de 4 heures. Monique Sylvain habite une résidence au lieu dit le Creux du Canard qui portait bien son nom ce jour-là.
Nous avons eu de l'eau là jusqu'à au-dessus du banc, 40 cm dans l'immeuble et là il devait y en avoir un tout petit peu plus. Une mare, les gens ils sont passés parce qu'il y en a qui devaient sortir, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux.
Sur les 150 000 habitants de Nîmes, 60 000 sont en zone inondable, comme Monique. La copropriété veut maintenant s'équiper de barrières anti-inondation, des bâtards d'eau.
Il faut s'équiper, parce que ça peut... Et de plus en plus avec la météo qui change, dès qu'il pleut un petit peu, on s'inquiète.
C'est de la prévention, il ne faut pas attendre qu'il pleuve. Oui.
José Collados, fabricant et installateur de bâtards d'eau, est venu faire un devis. Il a inventé ce système après avoir été lui-même victime d'inondation.
C'est un panneau qu'on va poser devant sa porte. Une fois qu'il est en place, on prend la pompe à vélo et on va le gonfler jusqu'à 3 bars.
Parce qu'il est entouré d'un joint.
Il est entouré d'un joint, justement, et c'est ce joint qui fait l'étanchéité et la résistance du produit.
Ouais, et puis de toute façon, il faut le faire maintenant avec le changement climatique.
Et depuis quelques semaines, cet installateur est assailli de demandes partout dans le Gard.
Toutes les 10 minutes, on a une demande. Quand il y a le soleil, on n'y pense pas.
Exactement.
Et la ville de Nîmes finance une partie de ses barrières anti-inondation. Des aides sont aussi prévues pour sécuriser les équipements électriques et de chauffage.
Vous restez avec nous, merci Sandy Dauphin. Et bonjour Claude de Girardi.
Bonjour.
Élu de Nîmes Métropole, délégué à la gestion des inondations notamment. Dans ce reportage, on entend les habitants qui s'équipent de barrières anti-inondation. L'agglomération, elle engage d'autres travaux de plus grande ampleur pour prévenir les inondations et leurs conséquences ?
Oui, tout à fait. La ville avant l'agglomération, puisque vous le disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on fait des travaux à la suite des événements de 1988. Et c'est très récemment que l'agglomération a pris en charge cette compétence. Mais précédemment, c'était la ville de Nîmes qui avait lancé des grands programmes de travaux. L'ampleur de ces travaux fait référence effectivement au niveau national, avec plusieurs générations de travaux. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure.
On y reviendra plus en longueur tout à l'heure, effectivement. Et c'est un budget conséquent ?
Oui, il faut environ 10 millions d'euros par an ont été consacrés à la lutte contre les inondations, avec des partenariats financiers, bien sûr. Mais ça a été constant et soutenu à l'initiative de la ville.
Alors au micro de Sandy Dauphin, on entendait aussi des habitants qui racontaient le dernier épisode méditerranéen en septembre dernier, le 14 septembre. Là, les dispositifs d'alerte et de prévention, ils ont fonctionné, d'après vous ?
Oui, ils ont fonctionné, puisque, en fait, si vous voulez, on a aussi un outil de prévision et de supervision de ces événements qui s'appelle ESPADA, qu'il a aussi fait référence, puisque d'autres villes s'en sont dotées.
Et ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est concrètement ?
C'est un outil qui permet de suivre, si vous voulez, l'évolution des cas de roues, qui sont les petits cours d'eau, très souvent souterrains, qui traversent toute la zone urbaine, même en amont et en aval, et qui permettent, le cas échéant, de déclencher une cellule de crise. ESPADA, c'est un outil qui est très précis,
Et dont on parlera aussi tout à l'heure, effectivement, oui. Claude de Girardi, on vous retrouve à 13h20 avec nos autres invités.
Avec plaisir.
Pour ce 13-14 en direct de Nîmes, une journée pour le climat sur Inter, à suivre après le journal de Frédéric Barrère, où il est question encore d'intempéries, Frédéric.
Oui, mais l'alerte est levée, plus aucun département en vigilance orange, et la tempête Aurora y passait, mais elle a soufflé très fort. Toute la nuit et ce matin, des rafales à 175 km/h ont été relevées, notamment à Fécamp, en Seine-Maritime. Il y a des dégâts. 120 000 foyers privés d'électricité encore à l'heure actuelle et de grosses perturbations. Le trafic SNCF est interrompu ou perturbé en Normandie, Bretagne ou dans l'Est, en région parisienne également. Trafic TER très perturbé avec ce matin un niveau exceptionnel également de bouchons sur les routes au niveau national. 1263 km d'embouteillage. Bonjour Mathilde Deligny.
Bonjour Frédéric.
Des dégâts et un trafic SNCF encore perturbé à la mi-journée, mais ça s'arrange.
Oui, ça a soufflé fort, très fort. Rafale de 175 km/h à Fécamp, effectivement. 171 dans les Vosges et des arbres tombés un peu partout, dans le jardin d'Éric notamment, près du Havre. Il a appelé France Bleu Normandie ce matin. Sa clôture est à terre.
Des superbes chênes dans mon jardin, les branches sont cassées, puis à peu près 20 ou 30 cm de diamètre, c'est pas des petites branches. Puis comme j'ai des animaux, moi je veux pas que les animaux puissent s'échapper. J'ai jamais vu le jardin dans cet état-là. C'est prendre une bonne claque en pleine nuit. Une tempête, j'en ai déjà vécu, mais il est comme ça, chaud chaud.
Une tempête qui a surpris même sur la côte bretonne, à Plozévette, dans le Finistère. C'est la soudaineté des vents qui a frappé dès hier en fin de journée. Une tornade a emporté le toit de la mairie, raconte son maire Gilles Quérézéon à France Bleu Brésil.
On a eu une montée en puissance du vent sur une période d'une dizaine de minutes, avec vraiment une mini-tornade qui a duré entre 30 secondes et une minute, où c'était d'une extrême violence. Et d'ailleurs, les employés de la mairie sont allés se protéger en disant « Oh là là, les vitres vont exploser ». Les vitres n'ont pas explosé, mais une partie du toit est partie quand même.
Dans les départements touchés, les pompiers sont intervenus plus de 2300 fois d'après la sécurité civile, essentiellement pour dégager des branches d'arbres, 40 arbres arrachés à Paris. Le trafic SNCF et en région parisienne reprend tout doucement, mais avec encore un point noir, la Normandie. Aucun train ne circule pour l'instant jusque 14h, voire 17h selon les lignes, laissant les usagers à quai comme ce matin en gare de Caen.
Je vais être obligée d'annuler ma journée de cours à Paris là parce que c'est vraiment trop compliqué pour l'instant de s'y rendre. Apparemment il y a des arbres tombés sur la voie, même pour les bus, il semblerait que les routes soient endommagées, donc voilà.
Du dépit, de l'attente et de la patience, il en faudra aussi pour se plonger dans le noir, d'ouest en est. Encore 120 000 foyers privés d'électricité, c'est moitié moins que ce matin.
Mathilde Deligny, merci. Une tempête qui n'a pas fait de victimes signalées.
Et comment atténuer la crise des prix de l'énergie? Les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles.
Et les prix de l'énergie sera l'un des grands sujets abordés. Les 27 veulent trouver des solutions pour faire baisser les factures. En direct de Bruxelles, on retrouve notre envoyé spécial Marie-Pierre Vérot. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Frédéric.
D'accord pour faire baisser les prix, mais les 27 restent divisés sur la stratégie à suivre.
Oui, et deux philosophies vont s'affronter ici. C'est finalement assez classique, hein. Celle qui a toujours été privilégiée par l'Europe, libéraliser, laisser la compétition entre opérateurs se faire et le marché se réguler tout seul. Et puis un autre camp dans lequel se retrouvent la France, l'Espagne notamment, qui souhaite intervenir, réguler, réformer le marché de l'énergie, revoir la fixation du prix de l'électricité. Il dépend, vous le savez, des cours mondiaux des énergies fossiles, ce qui pénalise les pays vertueux qui ont fait le choix d'une économie décarbonés, comme le nôtre avec le nucléaire. Mais pour l'Allemagne ou le Luxembourg, par exemple, l'heure n'est pas venue de rouvrir les textes européens. On pense à Berlin, comme à Bruxelles d'ailleurs, que la flambée des prix est conjoncturelle, qu'elle est tirée par la reprise post-Covid avec des stocks au plus bas, mais qu'au printemps, eh bien, tout rentrera dans l'ordre. Les mesures mises sur la table, l'aide aux plus fragiles, avec, vous savez, le chèque énergie ou encore le report de paiement des factures, eh bien, tout cela serait suffisant. À la Commission, on ajoute que ce sont les États qui ont la main sur le prix de l'énergie. Les taxes représentent un tiers de la facture. La hausse des cours a donc profité aux caisses des États. À eux maintenant, dit-on, de les baisser, ces taxes. Voilà, Paris prévenu. Et puis l'Espagne, de son côté, va aussi tenter de poser le débat sur la constitution de réserves stratégiques de gaz et l'achat conjoint, comme ce fut fait pour les vaccins. Des pistes qui seront explorées. Rien ne sera tranché, mais un consensus pourrait se dégager sur la nécessité d'accélérer sur les énergies renouvelables. Elles sont une dimension importante de la souveraineté européenne. Aujourd'hui, on le sait, l'Union est beaucoup trop dépendante de la Russie à cet égard.
Marie-Pierre Vérot, en direct de Bruxelles. Et en France, la réponse rapide promise par le gouvernement ne devrait sans doute plus tarder. Chaque carburant ou dispositif pour soulager le budget des Français face à la flambée des prix de l'essence et du gazole à la pompe. Aurore Berger, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, répète que la réponse du gouvernement va arriver rapidement et qu'elle sera efficace, compréhensible et simple. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, déclarait que le chèque carburant est la solution, selon lui, la plus juste et la plus efficace. Depuis le début du mois, le prix du gazole a battu un record historique, 1,53€ le litre en moyenne en France. Le sans-plomb 95 a retrouvé ses sommets de 2012 à 1,63€ le litre. Et bien sûr, des coûts supplémentaires pour les automobilistes, notamment ceux qui roulent beaucoup, comme par exemple cet épicier ambulant rencontré dans l'Oise, Boris Loumagne.
Il en passe du temps Guillaume au volant de sa camionnette pour sa tournée de village en village.
Approximativement 500 km par semaine.
Alors l'augmentation des prix du carburant, l'épicier la prend de plein fouet.
45€ en plus par mois et quand on vient de se lancer, 45€, ça fait beaucoup.
Un an que Guillaume est à son compte, il ne se verse pas encore de salaire, il est donc à quelques dizaines d'euros près.
Bah effectivement, les 50€, on préférerait les investir sur du matériel. Parfois on a de la perte sur certains produits, donc on préférerait les avoir pour nous plutôt que de les mettre dans le gasoil.
Bonjour madame.
Alors j'en voudrais.
Et pour compenser le prix du carburant, Guillaume envisage d'augmenter ses tarifs.
Ça fait 15,30€.
Valérie, une cliente, est partagée.
Bah, oui, je comprends, c'est sûr, mais bon. Après, pour notre porte-monnaie à nous, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais bon, je comprends.
Alors comment sortir de cette impasse? L'épicier privilégie le chèque carburant.
Ça peut être déjà une bonne solution à très court terme. Une cinquantaine d'euros, je pense que c'est pas mal.
Ça permettrait à Guillaume d'envisager les prochaines semaines un peu plus sereinement.
De nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut faciliter le dépôt de plaintes pour violences conjugales ou viols en réponse aux femmes qui dénoncent le mauvais accueil dans les commissariats. La présence d'un avocat aux côtés des femmes qui le souhaiteraient ne peut leur être refusée.
Et au chapitre politique, incertitude autour du référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie.
Le FLNKS appelle à ne pas participer au scrutin qui doit se tenir le 12 décembre. Les indépendantistes avaient déjà demandé son report en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans l'archipel. Le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste estime qu'il ne peut pas y avoir de campagne électorale équitable. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Cette décision déstabilise le processus des accords de Nouméa si le référendum est boycotté.
Oui, le FLNKS prend le risque de mettre le pays tout entier dans une impasse politique et de faire bégayer l'histoire. Ce sont les mots des députés de centre-droit opposés à l'indépendance. Bégayer l'histoire, car c'est après le boycott par le FLNKS des élections de 84, du référendum de 87, que les affrontements ont commencé sur l'archipel. Aujourd'hui, ils justifient leur décision par la crise sanitaire, à cause des restrictions qui compliquent la campagne, mais surtout parce que, je cite, les débats se focalisent sur le soutien de la France dans cette crise Covid. Un soutien crucial de Paris qui a de quoi faire hésiter les partisans de l'indépendance. Ils ont compris qu'ils avaient perdu, estime l'ancien président du gouvernement calédonien, aujourd'hui sénateur LR, Pierre Frogier.
Le FLNKS n'est plus à la hauteur des enjeux, c'est clair. Au lendemain du deuxième référendum, ils sont persuadés de gagner le troisième. Vous savez, c'est comme quand, vous savez, les enfants là qui tournent sur un manège, ils se disent « on va décrocher le pompon ». Eh bien, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que tout ça ne les mènera à rien. Sauf qu'ils n'ont pas le courage de le dire à leurs électeurs.
Décrocher le pompon, cela paraissait en effet possible après le deuxième référendum avec un camp du oui à 47%. Aujourd'hui, la crise, Covid, a donc changé la donne. Le long conflit autour de la reprise d'une usine de nickel n'a rien arrangé. Ici, à Paris, le gouvernement n'a pas encore réagi à cette annonce. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vient à peine de rentrer de Nouméa. Cela marque son échec, assène un élu calédonien. Et le gouvernement n'exclut pas un report de ce troisième référendum au-delà du 12 décembre, si la situation sanitaire devient hors de contrôle.
Maxence Lambrecq, merci. La vaccination des plus jeunes avec deux informations, la levée du secret médical dans les écoles et la question de la vaccination des 5-11 ans. La nuit dernière, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui permet aux directeurs d'école ou aux chefs d'établissement de connaître le statut vaccinal des élèves contre le coronavirus, mesure dénoncée par les parents d'élèves de la FCPE. Et puis pour ce qui concerne la vaccination des enfants, les 5-11 ans, les États-Unis sont prêts à vacciner les jeunes enfants. Il ne manque plus que l'autorisation des deux principales agences de santé américaines. Est-ce que cette mesure peut s'appliquer en France? Ce n'est pas d'actualité, indique ce matin sur France Info le professeur Alain Fischer. Pour le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les pays ne sont pas comparables.
On attend d'avoir le détail des résultats et puis on attend aussi l'étude concernant le vaccin Moderna. Donc effectivement, 2000 enfants ont été concernés versus 2000 enfants qui ont reçu un placebo, qui montre une excellente efficacité avec des doses réduites de vaccin et sur 2000 enfants, une bonne sécurité. Mais cela ne permet pas de détecter d'éventuels événements rares, très rares, qui seraient liés à la vaccination. Donc aujourd'hui, à la minute où on se parle, ou dans les jours qui viennent, ou les toutes prochaines semaines, il n'y a pas nécessité d'envisager la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il faut dire une chose qui est importante, c'est qu'aux États-Unis, et ça explique pourquoi ils avancent plus vite que nous, la problématique de l'infection du Covid chez l'enfant est plus importante. Il y a beaucoup plus d'enfants atteints et plus de formes sévères, probablement en raison des comorbidités comme l'obésité qui frappe gravement les enfants aux États-Unis, par exemple. Donc, faut faire attention dans les comparaisons. Heureusement pour la France, nous ne sommes pas dans cette situation.
Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Changement de tête au Journal du Dimanche et à Paris Match avec deux nouveaux patrons pour succéder à Hervé Gattegnaud.
Oui, un tandem pour succéder à Hervé Gattegnaud dont le départ a été annoncé mardi dernier. Tandem formé des journalistes Patrick Mahé et Jérôme Bellé. C'est aussi un retour pour Patrick Mahé, 74 ans, à Paris Match. Et pour Jérôme Bellé, 79 ans, au Journal du Dimanche, Alexandra Akoun.
Deux septuagénaires, le vintage est à la mode, qui connaissent déjà bien les rédactions en question. Patrick Mahé, breton comme Bolloré, est entré à Match en 1980, avant d'en devenir rédacteur en chef de 90 à 96. Quant à Jérôme Bellet, qu'on connaît bien dans cette maison, il a fondé France Info, il a déjà dirigé le Journal du Dimanche entre 2011 et 2016, en est parti contesté par la rédaction, en cause notamment une une du JDD consacrée à Marine Le Pen, et ce titre, un Français sur trois prêt à voter pour elle, même Arnaud Lagardère à l'époque avait contesté ce choix éditorial. Patrick Mahé, lui, a milité dans sa jeunesse au sein du groupuscule d'extrême droite Occident. En 2014, il devient conseiller municipal de Vannes sous l'étiquette UMP. Chacun dans ses nouvelles fonctions sera secondé par Caroline Manger et Cyril Petit, promus respectivement directeur de la rédaction de Paris Match et du JDD.
Cette histoire maintenant dans le football anglais qui suscite l'émoi, la stupéfaction ou l'envie, c'est selon. Le club d'Arsenal vient de recruter un enfant de 4 ans, Zayn Ali Salman. C'est le plus jeune joueur jamais recruté dans une école de football. L'enfant est encore à la crèche, mais selon ses formateurs, son talent ne pouvait pas attendre, Jean-Pierre Blimeau.
I'm 4 years old and my favorite team is Arsenal.
J'ai 4 ans et mon club préféré est Arsenal.
Il s'appelle Zayn Ali Salman et se présente le plus naturellement du monde, de face, maillot d'Arsenal sur les épaules, à un journaliste qui l'interroge à distance. L'un des recruteurs du club explique que son premier réflexe a été de dire non et qu'il n'était pas question de l'intégrer à la nursery, l'équivalent des tout jeunes débutants dans le foot anglais. Mais il a testé l'enfant à plusieurs entraînements et a vite compris que ce qu'il avait vu sur des vidéos n'était pas le fruit du hasard. L'enfant est maintenant pris en main par Austin Schofield, l'un des éducateurs d'Arsenal.
Nous l'avons évidemment mis avec sa catégorie d'âge, les 4, 5, 6 ans, et il était déjà meilleur que tout le monde. Il était beaucoup plus rapide que les autres et la manière dont il frappe et passe le ballon était tellement bonne. Alors on l'a surclassé, j'ai parlé avec son père et il voulait qu'on l'essaye avec les plus grands.
Car évidemment, le jeune Zayn Ali est sous l'autorité parentale. En revanche, aucune allusion à une somme d'argent n'a été faite dans ce reportage. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, Manchester United avait recruté un enfant de 5 ans, Charlie Jackson, 15 ans cette année. Il n'a pas encore fait parler de lui.
Voilà, 4 ans et recruté par Arsenal. Nous retournons à Nîmes dans un instant.
La France mutualiste.
Quelle est la capitale du Bénin ?
Porto Novo.
Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles ?
La France mutualiste.
La France mutualiste ?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à tout.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France mutualiste.
Groupe La France mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistrée à Lorias.
France Inter aime
Illusion perdue, un film de Xavier Giannoli, d'après l'œuvre de Balzac.
J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Lucien, un jeune poète, quitte sa province pour tenter sa chance à Paris.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Illusion perdue, un film sur la comédie humaine où tout s'achète et tout se vend. Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste et Xavier Dolan, actuellement au cinéma, un film France Inter.
13h21 sur France Inter, on retourne à Nîmes où on vous retrouve, Marion Lourd, avec vos invités.
Oui, en direct de Nîmes, ville qui, depuis les inondations meurtrières de 1988, a dû apprendre à s'adapter aux changements climatiques et aux intempéries, sécheresses, épisodes méditerranéens et orages de plus en plus nombreux. Ici, à Nîmes, le temps est couvert aujourd'hui et les trottoirs encore humides des averses de la nuit.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Quel temps à Nîmes et ailleurs en France pour ce jeudi ?
Alors on a la tempête Aurore qui s'est éloignée, donc le vent souffle beaucoup moins fort aujourd'hui, mais on garde des rafales à 60 km à l'heure sur les régions du Nord. Sur la majorité du pays, c'est essentiel d'averses, avec des averses plus fréquentes entre le Nord-Ouest, la région parisienne, les frontières du Nord. On va retrouver quand même de belles éclaircies près des côtes de la Manche, du Roussillon vers le sud des Alpes et la Corse également, les éclaircies reviennent. Les thermomètres dégringolent, pas plus de 12 degrés à Lille contre 18 hier, 15 degrés à Paris, 18 à Angers, Clermont-Ferrand, Grenoble, 22 à Montpellier, à Nice et 24 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, merci à vous. Il est 13h23 sur Inter, suite de ce 13-14 Nîmois consacré à l'adaptation au changement climatique.
Une journée pour le climat, 10 jours avant la COP26, sur France Inter.
Tous les Nîmois de plus de 40 ans s'en souviennent, chacun a son histoire à raconter sur cette inondation d'octobre 1988. L'école fermée, la voiture emportée, la maison inondée. La catastrophe à l'époque avait fait 9 morts et 45 000 sinistrés. 6 mois de pluie tombée en une journée. Les Cadereaux, ruisseaux qui coulent sous la ville, s'étaient transformés en torrents. Sandy Dauphin, vous êtes notre spécialiste environnement et vous l'avez constaté hein, lors de votre reportage. La ville surveille aujourd'hui ces cadereaux de très près, elle mène de gros travaux depuis 33 ans et les habitants n'oublient pas.
Oui, au bar de l'importation dans le quartier Richelieu, une photo rappelle l'inondation du 3 octobre 1988. Un torrent marron déferle devant et dans le bar de Rosie, 82 ans. La patronne n'a pas oublié.
À 7h du matin, l'eau est arrivée, la grosse vague. Jusqu'à 9h, on est resté dans l'eau, dans le bar. On a bataillé à 4 pour ouvrir la porte, pour essayer de pouvoir monter à l'étage. On a tout perdu.
Ce jour-là, les ruisseaux qui passent sous la ville, on les appelle les cadereaux, ont débordé et tout emporté sur leur passage. Au fil de l'urbanisation, ils ont été recouverts, enfermés sous la ville. Ils sont désormais trop étroits en cas de crue importante. Surtout à l'automne, au moment des épisodes méditerranéens, quand les pluies diluviennes les alimentent.
Ces cadereaux, au quotidien, ils sont à sec. Et en cas d'événement orageux, ils peuvent devenir de vrais torrents en à peine une demi-heure.
Guillaume Plat est chef du projet Espada, l'outil de prévention des crues de Nîmes. Dans une salle bardée d'écrans et de cartes, il surveille les 6 cadereaux de la ville.
Donc le dispositif Espada s'appuie sur une cinquantaine de capteurs de hauteur d'eau et de mesure de pluie, également sur des cartes de pluie, l'exploitation d'images issues de la vidéoprotection. Globalement, on peut dire, avec environ 1h30 d'anticipation, tel cadereau va déborder avec tel impact associé et du coup on préconise telle action de sauvegarde.
Nîmes surveille ses cadereaux et depuis 30 ans les agrandit pour éviter les dégâts en cas de crue. Comme ici dans le quartier Richelieu, une tranchée impressionnante a été creusée dans la rue, on dirait l'entrée d'un tunnel routier.
Donc là, on se trouve dans un tunnel qui fait 3,50 m de large par 4 m de haut. L'eau va s'écouler par ici, là, on redimensionne le cadereau pour multiplier par 10 sa capacité.
Jean-Luc Nuel est responsable de la prévention des inondations à la métropole de Nîmes.
On n'est pas capable de se prémunir de toutes les inondations, donc on a un objectif de réduction avec un certain niveau de débit qui correspond, pour faire simple, à peu près la moitié des débits qu'on a pu constater lors de l'événement historique de 1988. On construit des ouvrages pour faire transiter sous la ville à peu près une centaine de mètres cubes par seconde. Et donc, tant qu'on ne va pas dépasser ce niveau-là, la ville est protégée. Et puis, si un nouvel événement type 88 se déroulait, on aurait 200 mètres cubes seconde, mais une centaine sous la ville et une centaine dans les rues de la ville.
Et pour protéger Nîmes sans reporter le problème sur les communes en aval, d'immenses bassins de rétention ont été construits pour absorber l'eau des cadereaux.
Un reportage France Inter de Sandy Dauphin. Merci Sandy, vous restez avec nous. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Vous dirigez la mission développement durable du département de l'Hérault. Alors, c'est à qui les épisodes méditerranéens et les inondations? Ils devraient être plus nombreux ces prochaines années?
Ce que disent les recherches aujourd'hui, c'est que sans doute, on va avoir une intensité plus importante des épisodes. Parce que il y a des études, alors c'est des productions scientifiques, mais entre 1 degré de plus terrestre, on va avoir entre 7 et 14% d'intensité en plus sur les épisodes qu'on codait. Et on sait que le changement climatique revient sur la fréquence. Donc les périodes de retour qu'on avait de 50 ans risquent de se raccourcir. Et moins on maîtrisera l'augmentation des températures globales, plus on aura de retour rapide sur la fréquence. Donc effectivement, il faut veiller à limiter les émissions de gaz à effet de serre et effectivement s'adapter aux événements futurs.
Bonjour Patrice Morin.
Bonjour.
Vous êtes en charge du département risque naturel au CEREMA Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire que Nîmes est devenu un modèle dans l'adaptation à ce changement climatique?
Alors disons que face au risque d'inondation, c'est une des villes effectivement qui est exemplaire de ce côté-là, puisque elle met en place à la fois des outils donc de protection au travers donc de travaux qui ont été cités dans vos reportages, c'est-à-dire des bassins de rétention, des travaux sur les cadereaux, mais ça ne suffit pas. On sait que ça ne suffit pas puisque comme on le dit assez souvent, le tout digue ne suffit pas pour se protéger. Et votre reportage a été quand même assez complet là-dessus, puisqu'on voit bien que Nîmes ne mise pas tout là-dessus avec le dispositif Espada, justement, pour essayer d'alerter au maximum en amont les populations et également avec de l'éducation de la population pour les informer aux bons gestes et aux bons gestes de sauvegarde le jour où ça arrive.
Des messages qui sont envoyés, par exemple.
Qui sont envoyés, par exemple, voilà.
Vous disiez Nîmes est une des villes, je suis curieuse quand même de savoir quelles seraient les autres villes modèles d'après vous.
Alors, il y a des sur la façade méditerranéenne, parmi les villes que je connais, il y a des villes comme la métropole de Nice ou Cannes qui ont également des systèmes en place qui font à peu près les mêmes choses avec des systèmes d'alerte sur leur commune, quoi. Ou métropole également.
Claude de Gérardy, vous êtes élu de l'agglomération. On parlait tout à l'heure du coût que peuvent représenter tous ces travaux, les travaux de la ville, mais aussi les diagnostics pour les particuliers, et puis le dispositif d'alerte Espada. Ça coûte combien? Vous disiez 10 millions tout à l'heure, 10 millions
oui,
par an.
Oui, en gros, si on regarde l'ensemble des investissements réalisés depuis 30 ans, on est à quelque chose comme 10 millions d'euros par an en moyenne.
Uniquement pour l'agglomération?
Alors, les travaux essentiellement portés sur Nîmes, à partir de très bientôt, les travaux vont être étendus à l'ensemble des communes de l'agglomération. Mais c'est vrai que Nîmes concentre l'essentiel des enjeux, que ce soit en termes de sauvegarde humaine ou de dégâts matériels. C'est 80% quand même des enjeux.
Et c'est 10 millions par an sur plusieurs années.
Oui, bien sûr.
Là, on parle de 30 ans.
Chaque année, depuis 30 ans, oui.
Et on le trouve où, l'argent?
Alors, on le trouve dans les caisses de la ville, bien sûr, de l'agglomération, évidemment. Et puis également, on a des participations de l'État qui ont cru d'année en année. On est parti dans les premières années à environ 30% de cofinancement. Là, on attend 50% pour le prochain programme. Mmh. Et puis le département, 10%, la région également.
Des fonds européens également?
Des fonds européens, je pense qu'ils sont compris dans la participation de l'État.
Mmh. Mmh. Michel-Pierre, en fait, il y a différents types de travaux à engager. Hein. Patrice Morin en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a des travaux en dur, comme les tunnels pour les cas d'euro. Et puis, il y a des travaux de prévention, plus souples, le développement de la culture du risque. Lesquels il faut privilégier, en fait?
Je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que faire du dur, ça marche plus, quoi. Ça marchera plus parce qu'en fait, on est dans un système très dynamique. Donc, on va avoir le climat. C'est, on a appris ce qu'on a appris à l'école. Il faut l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas né dans un climat et on va pas y mourir. C'est-à-dire que ça va se modifier au fur et à mesure du temps. Donc, effectivement, il y a des solutions dures et puis il y a toutes ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et il y a ce qui est énormément, c'est la culture du risque et surtout la culture du nouveau risque. C'est-à-dire que même le risque que j'ai connu, il faut apprendre qu'il y a de nouveaux risques qui vont apparaître, il y a de nouvelles intensités, et donc c'est une espèce de dynamique territoriale, de projet de territoire, et c'est en ça que l'adaptation au changement climatique est extrêmement intéressante pour la société, parce que ça offre un projet de société. Donc c'est-à-dire on n'est pas justement sur la technique, on est vraiment sur une démarche territoriale qui essaye de se confronter à tous les aspects, qu'ils soient aussi bien humains, économiques, environnementaux, et aussi peut-être de l'ingénierie liée à toute l'intelligence collective qui est mobilisée sur le territoire.
Et ces travaux qui ne sont pas en dur, ils coûtent un peu moins cher aussi. Enfin, ce travail qui n'est pas en dur, il revient moins cher.
Il peut coûter un peu moins cher, et puis surtout, il faut rompre avec la culture de la performance budgétaire. C'est-à-dire que l'entretien de zones souples, etc., c'est pas parce qu'on voit pas qu'il s'y passe rien que c'est pas rentable. Et donc là aussi, c'est une autre manière de penser le coût territorial du territoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer des coûts. On est dans une démarche systémique, c'est-à-dire globale, donc c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir une vision qui englobe tous les coûts pour trouver le bon équilibre justement pour piloter des politiques d'adaptation.
Avant de donner la parole à notre spécialiste environnement à nouveau, Patrice Morin, vous êtes sur la même ligne que Michel-Pierre sur cette question des travaux en dur ou pas en dur?
Disons qu'il n'y a pas de solution unique. Voilà. Donc, si vous êtes à Nîmes, puisqu'aujourd'hui on est à Nîmes, vous voyez bien les travaux qui ont été engagés et les solutions basées sur la nature, vous avez du mal à les mettre en œuvre parce que vous êtes dans c'est une géographie très particulière, une topographie très particulière. Par contre, vous avez d'autres zones où ces méthodes-là font partie de ce qu'on appelle, nous, on aime bien appeler la boîte à outils, c'est-à-dire des outils techniques que vous pouvez mettre à disposition. Donc, dont les digues et ces outils fondés sur la nature.
Mais qu'est-ce que c'est alors, ces outils fondés sur la nature?
Typiquement, c'est laisser la rivière déborder dans certains endroits pour pas inonder des zones urbanisées. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais ça se prête à certaines topographies et c'est pas duplicable de partout. Donc chaque ville est un cas d'espèces et il faut la regarder avec sa particularité.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter.
Oui, j'avais juste une question sur la culture du risque. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Nîmes, plus qu'ailleurs, on sait ce qu'il faut faire quand on entend une sirène retentir? Parce qu'on a parfois vu des images de gens qui faisaient exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Pas forcément à Nîmes, mais ailleurs.
Peut-être Claude de Girardi, qui est élu de l'agglomération.
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, les Nîmois, d'une manière générale, ont une mémoire collective qui imprègne les Nîmois, j'allais dire anciens, de la réalité des risques, et je crois que chacun est bien au fait des consignes qui sont en plus très relayées, réseaux sociaux, médias, SMS, coup de fil, ciblés mais en même temps très largement diffusés. Donc après il y a bien sûr toujours de nouveaux habitants. Depuis 88, Nîmes a gagné 20 000 habitants. Ce sont donc des gens qui n'ont pas connu cette époque. Et il est toujours utile, bien sûr, de rappeler les consignes.
Et donc, Claude de Girardi, est-ce que vous comprenez les réflexions que peut avoir notamment la municipalité sur le fait que aujourd'hui, peut-être qu'on impose un peu trop de contraintes sur l'urbanisation parce qu'on ne peut pas construire dans toutes les zones. Beaucoup sont considérées comme inondables. Vous comprenez ces réserves?
Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, ça rejoint le propos de des deux autres personnes sur le plateau tout à l'heure.
En fait, aujourd'hui, Patrice Morin.
Voilà, pardon. Aujourd'hui, le risque d'inondation, il est géré de manière intégrée, c'est-à-dire qu'à la fois on agit sur l'urbanisme, enfin sur les travaux, bien sûr. Donc le dur, il reste totalement nécessaire et il est même très important. Mais également les questions d'urbanisme, les questions d'information de la population, de sensibilisation des personnes à ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes pour réduire leur propre vulnérabilité. Donc en fait, si vous voulez, on ne fait plus uniquement des travaux. On fait plein d'autres choses et on tient compte dans les règles d'urbanisme et dans les questions d'habitat de l'importance de l'inondation. C'est vrai que du coup Nîmes très concerné hein, puisque par les plans de protection contre les inondations a parfois des difficultés à trouver des emprises foncières pour assurer son développement.
Mais donc je vais être un peu plus incisif peut-être. Est-ce que on va trop loin en matière de prévention et d'interdiction de construction ou pas aujourd'hui vu le nombre d'habitants effectivement qui arrivent à Nîmes et qui veulent s'y installer?
Alors les contraintes de l'État, les lois, les contraintes notamment en matière de développement urbanisme et économique sont fortes. Sur le risque d'inondation, l'ensemble de nos gouvernants se mettent d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin de... c'est pas contesté, quoi. C'est quelque chose qui est comme une évidence. Après, il y a d'autres contraintes autres que les inondations qui, en effet, pèsent en complément sur cet ensemble de sujets.
Patrice Morin, est-ce que, effectivement, avec toutes les règles qui ont été mises en place, plus ces dispositifs d'accompagnement, si aujourd'hui des pluies de l'ampleur de celles de 1988 devaient se reproduire, est-ce que les Nîmois sont à l'abri? Est-ce qu'ils sont protégés?
Alors ça, il ne m'appartient pas de répondre à cette question-là, parce qu'elle est un peu compliquée. Mais vu les travaux qui ont été pris, on peut espérer quand même que l'impact d'un événement du même type que celui de 88 sera beaucoup, beaucoup plus faible. Enfin, beaucoup plus faible. Voilà, puisque quand même, il y a un certain nombre de travaux et puis d'éducation de la population qui ont été faits. Donc, je pense qu'on peut le dire.
Parce qu'on a vu au moment de l'inondation du mois de septembre, des images de gens qui étaient encore en train de rouler, prisonniers de leur voiture, de policiers qui étaient obligés d'aller leur porter secours.
La prévention des risques et des risques naturels en particulier, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que malheureusement, ça... C'est pas comme quand vous prenez votre téléphone portable, que vous regardez votre téléphone portable tous les jours, vous avez des réflexes. Les risques naturels, malheureusement pour nous, ça a des périodes de récurrence relativement longues et on oublie, les gens oublient. Et donc c'est tout le travail des repères qu'on peut mettre dans une ville pour se rappeler que quand même l'eau est montée jusqu'à telle hauteur. Et c'est le travail des mairies, des métropoles, de rappeler les consignes en cas de crue.
Michel-Pierre, est-ce qu'on va assez loin du coup en matière de communication à l'égard de la population, justement pour les sensibiliser à cette prévention?
Je pense que changement climatique, ça veut dire changement de paradigme dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation, au même titre que le développement durable est obligatoire, on devrait apprendre aux enfants, et pas qu'aux enfants, à prendre en compte le changement climatique. C'est-à-dire que on doit en faire un fil rouge de sa vie. Voilà, donc effectivement, c'est très difficile, on est organisé comme ça humainement pour oublier les mauvais souvenirs. Donc c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est tourner la chose en quelque chose de désirable. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous parle de projet de société. Pour moi, le changement climatique, c'est d'abord un projet de société. Si on n'en fait pas un projet de société, on le rendra pas désirable, on va mettre les gens dans la contrainte. Donc c'est essayer de trouver tout ce qui est... En apport positif par rapport à cette contrainte. Et donc je pense que c'est le fil à tirer et qui peut permettre comme ça d'embarquer les gens.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret?
Nous par exemple au département de l'Hérault, on va lancer bientôt un projet qui s'appelle Habiter le littoral en 2050, un projet ouvert aux jeunes architectes et aux étudiants, et ce projet il est positif, c'est-à-dire que c'est un appel à idées et on va leur dire voilà, on vous propose sur la ville de Frontignan d'imaginer ce qui va se passer sur un quartier et sur ce quartier vous allez m'inventer une ville décarbonée, une ville où on peut faire de l'agriculture locale, ou une ville où on peut se déplacer, et qui va prendre en compte le fait que la mer va monter, le fait qu'on va avoir des surchaleurs, le fait qu'on va avoir des épisodes de Cévenol, ou des épisodes méditerranéens, le fait que peut-être aussi on aura des populations qui vont arriver, qu'on aura peut-être des maladies, mais qu'en même temps, on va trouver des solutions collectives. Et tout ça dans un esprit d'économie de ressources. Et vous voyez, quand je vous dis ça, je parle d'un autre modèle de société.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter.
Oui, je voulais poser une autre question à Patrice Morin. Donc, les inondations, elles sont aussi liées au bétonnage. Bon, à Nîmes, on a vu qu'on faisait des travaux, on essayait de s'adapter. Mais est-ce que, à l'avenir, faut pas imaginer construire des villes autrement? L'eau, qu'elle arrive à s'infiltrer dans la terre et non pas qu'elle ruisselle dans les rues parce que les sols sont artificialisés.
Alors tout à fait, hein, le sujet de la désimperméabilisation, c'est vraiment un sujet qui est pris en compte maintenant. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a aucune collectivité qui a pas ça en tête, hein, puisqu'on voit.
Mais comment on fait concrètement à Nîmes? On enlève des dalles, comment on peut désimperméabiliser justement?
Ah bah, donc, je vais laisser la ville de Nîmes répondre.
Madame de Girardet.
Oui, alors à Nîmes par exemple, on a détruit des maisons qui était particulièrement exposé parce que se trouvant dans le lit de ce qu'on appelle un cadereau, hein, donc il y a eu des fonds européens qui ont été qui s'appellent d'ailleurs les fonds Barnier.
Mais ça c'est sur le risque, mais sur l'écoulement des eaux.
Non, mais on désurbanise, on enlève des maisons qui gênent l'écoulement naturel des eaux, si vous voulez, et qui font obstacle à un ruissellement qui permettrait d'éviter les inondations. Donc ensuite, au-delà de ces destructions de maisons dans les emprises qui étaient très exposées et qui du coup redonnent de la liberté à l'eau, on effectivement, aujourd'hui quand on veut construire une emprise et qu'on a besoin de bétonner, comme vous le disiez tout à l'heure, en compensation, on est amené à proposer des terrains qui vont rester à l'état de nature pendant 30 ans avec un plan de gestion et qui vont dans un même secteur, hein, et qui vont donc apporter une respiration par rapport à la nécessité par ailleurs de développer d'autres activités.
Ce que vous nous dites, Claude de Gérardy, c'est que pour l'agglomération, pour la ville, exproprier des gens éventuellement, c'est pas un tabou.
Ah non, absolument pas, ce n'est pas un tabou. Et ce que je dis également, c'est que le fait d'avoir des contraintes inondations n'empêche pas de penser le développement de la ville, le développement des besoins de logement, les besoins d'implantation d'activités économiques. Simplement, il faut avoir en tête que en même temps et juste à côté, il faudra préserver des espaces à l'état de nature.
J'avais une question sur le travail de diagnostic qui a été effectué alors par la ville, je crois, en l'occurrence, sur les habitations, avec des préconisations de travaux, éventuellement rajouter un étage pour pouvoir se mettre en hauteur à l'abri des inondations, etc. Il y a eu des milliers de diagnostics qui ont été effectués avec des préconisations de travaux, et seulement quelques centaines qui ont donné lieu à ce jour à des travaux. Comment vous expliquez que ça prenne autant de temps?
C'est vrai, c'est très dommage, et on peut le déplorer, plus de 2000 diagnostics réalisés que pour les particuliers, hein, parce que la même chose existe pour les entreprises, et fort peu de 250, on va dire, allez, 10% de travaux réalisés. Il y a quand même des travaux qui sont coûteux, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement la facilité de faire l'avance de ces travaux, parce que en effet, ils sont très subventionnés, hein, 80% par l'État. Et
donc ils coûtent presque rien, en fait.
Ils coûtent presque rien, mais il faut faire l'avance des travaux. Et puis, le 100%, c'est que depuis un an. Auparavant, il y avait simplement 80% de subventions de l'État. Donc là, on a une accélération des travaux réalisés après diagnostic qui augure quand même d'une autre, d'un changement de comportement de la part des usagers et des habitants, mais qu'on peut comprendre. Ce sont des travaux chers. Les bâtards d'eau, par exemple, qui en effet sont très efficaces.
Hein. Donc les petites barrières anti-inondation.
Voilà, les petites barrières anti-inondation. Quand on a de l'eau qui monte à 50 cm, si on met un bâtard d'eau, on n'a plus d'eau dans sa maison. Donc c'est très important. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à jouer avec les assurances pour qu'elles-mêmes sont amenées derrière à prendre en charge beaucoup de dégâts et qu'il pourrait y avoir des partenariats intéressants à réfléchir.
Patrice Morin, une dernière question. Vous êtes au centre d'expertise et d'études sur les risques. Est-ce que la bonne échelle pour ce genre de travaux, pour la prévention, c'est la ville, l'agglomération, le département?
Alors, disons que ni un ni l'autre. En fait, il faut raisonner en bassin versant, voilà, tout simplement. Donc, des fois, vous avez le bassin versant qui va concerner qu'une seule commune, mais parfois, vous avez des bassins versants qui concerne de multiples communes. Et donc, la bonne échelle de réflexion, elle est au bassin versant. Parce qu'il ne faut pas que l'eau que vous évacuez, c'est ce qui a été dit, hein, d'ailleurs, dans votre reportage, l'eau que vous évacuez d'une commune, vous la renvoyez vers la commune plus bas, qui, elle, n'est pas préparée. Donc, c'est une réflexion qui doit être complète sur l'ensemble du bassin versant.
Patrice Morin,
la rivière, peut-être expliquer le bassin versant, la rivière et tout le système hydraulique naturel autour, les affluents, les nappes phréatiques,
enfin,
tout.
Voilà. C'est-à-dire, le bassin versant, c'est quand une goutte d'eau tombe, son exutoire, c'est le bout de la rivière.
On comprend bien la notion de bassin. Patrice Morin, directeur du département risque naturel du CEREMA Méditerranée, merci. Claude de Girardi, élu de Nîmes Métropole, en charge des inondations, merci à tous les deux. Michel Pierre, directeur du développement durable au département de l'Hérault, vous restez avec nous à suivre sur France Inter. Comment faire face aux autres risques liés au changement climatique, sécheresse et montée du niveau de la mer?
France Inter, une journée pour le climat.
13h45 sur France Inter et on poursuit ce 13-14 spécial, une journée pour le climat sur France Inter. Nous sommes en direct de Nîmes pour voir comment la ville et ses alentours s'organisent pour faire face au changement climatique. En termes économiques et immédiats, on en parlait, la première menace, ce sont les inondations. Mais avec le réchauffement, la sécheresse, la chaleur vont avoir un impact pour la vie quotidienne et pour des activités comme l'agriculture. Michel Pierre, au même titre que les inondations, la sécheresse, elle est déjà observable à Nîmes et sur ses alentours?
Alors, elle est observable partout. Nous, on a des données, par exemple, dans le département de l'Hérault, on a un observatoire météo qui fonctionne depuis de nombreuses années. On a de longues séries de données. On sait que la température moyenne de Montpellier a monté d'un degré et demi. On doit être à Nîmes un peu plus au-dessus parce que c'est plus dans les terres. Donc, effectivement, c'est déjà observé. Le changement climatique, on le vit déjà. C'est-à-dire qu'on le vit déjà. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on le projette. Et la dérive thermique aujourd'hui des territoires méditerranéens, c'est 0,4 degrés tous les 10 ans.
Donc on prend 0,4 degrés.
Oui, voilà, tous les 10 ans. Donc, c'est-à-dire que le record de température français, il est entre Nîmes et Montpellier, il date de 2019, c'est 46 degrés. Donc,
et paradoxalement, malgré ce qu'on disait tout à l'heure, la pluviométrie est en baisse aussi?
La pluviométrie est en baisse, tendanciellement, moins bien répartie, et elle va augmenter en intensité. Donc on va être dans des paradoxes méditerranéens. On est déjà dans un climat qui se coupe pas mal. Hein. Le climat méditerranéen, il ne faut pas oublier que le record de pluviométrie en France date de 1900, c'est Val Rogue, 900 mm en 24 heures. Donc... Donc on est dans un climat qui est chaud bouillant pour le climat déjà, mais on va être dans un climat qui va se couver un peu plus, quoi. Effectivement.
Le Gard, c'est aussi une terre viticole, 3 appellations d'origine protégée, 4 indications géographiques protégées pour les vins sur les terres rouges, les garrigues calcaires, le sable du littoral. Bonjour Bernard Angelras.
Bonjour.
Vice-président de Nîmes Métropole, vous présidez aussi le syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Quel impact elles ont, les intempéries, pour cette activité viticole?
Alors, les intempéries ont beaucoup d'impact. Il y a d'abord l'impact, il y a plusieurs impacts. Il y a la sécheresse.
Dont on parlait à l'instant.
Il y a les inondations. Il y a la grêle également. Donc en définitive, nous avons tous, nous deux réunis sur la question agricole, viticole, de réunis pour de réagir très rapidement pour essayer d'atténuer de façon importante ce changement climatique. Parce que c'est pour nous des contraintes économiques et sociales importantes.
Mais ça se mesure comment? C'est une baisse de la production ou de la qualité?
Alors, c'est une baisse de la production, voire une suppression totale de la qualité. Nous avons eu l'année dernière, le 8 avril, un gel généralisé dans le département du Gard, qui a fait qu'il y a eu des pertes de production de l'ordre de 40% en moyenne sur l'ensemble du département, quoi. Donc c'est quand même une économie aussi à côté et des familles qui vivent de cette économie, quoi.
Et vous anticipez que ça va se poursuivre pour les années à venir?
Eh bien, malheureusement, à dire d'espère, ce qu'on entend dire, c'est que ça, c'est pas très rassurant, quoi. C'est pas très rassurant et c'est là, si vous voulez, que nous, viticulteurs, gens engagés de la terre, qui essayons d'agir avec pragmatisme, efficacité et toujours obligation de résultat.
En contribuant parfois, malgré tout, au réchauffement climatique, en utilisant des machines.
Ah oui, mais vous savez, ça a évolué. Les machines, quand vous regardez les tracteurs que nous avons aujourd'hui, sont des tracteurs de dernière génération, 40% d'économie de gasoil, quoi. De génère, quoi. Enfin, mais bon.
Ce que vous dites, c'est que vous voulez aussi passer à l'action.
On est passé à l'action. On n'a pas attendu, on a passé à l'action. Depuis 2017, je conduis au niveau de la filière viticole française, d'ailleurs, une réflexion avec mes collègues de l'INAO, de France Agrimaire, de l'ensemble des acteurs de la filière viticole française, qui est de conduire une réflexion sur à la fois l'adaptation au changement climatique pour les cultures dans nos appellations, sous nos signes de qualité, et en même temps, avec le volet adaptation, mais le volet aussi atténuation du changement climatique. Parce que si on ne travaille pas sur le fond, l'atténuation du changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir dans le temps à s'adapter. Et que je suis persuadé que l'agriculture, la viticulture en particulier, a un rôle essentiel à jouer par nos conditions de production, par nos pratiques agricoles. Et je prends un exemple très simple. Lorsque vous enherbez des parcelles de vignes avec des variétés de fleurs, des variétés des espèces de fourrage, de régras, de choses comme ça, vous pouvez faire du stockage du carbone de sol. C'est la règle du 4 pour 1000. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INRAE, les chercheurs l'ont évoqué à plusieurs reprises. Nous travaillons à partir de bases scientifiques pour aller sur du concret. Et d'ailleurs, par rapport à ça...
Vous attrapez du carbone et vous le stockez dans le sol.
On le stocke dans le sol. Et en plus de ça, ce carbone, c'est pas moi qui l'attrape.
Comment
c'est
ça
la
marche
plante. C'est, la
voilà,
plante.
C'est la plante.
La plante l'attrape, le transforme en matière organique dans le sol et, bien sûr, rejette de l'oxygène. C'est un phénomène que nous rendons... C'est un service que nous rendons d'ailleurs à la société et qui est gratuit. Je me permets de le rappeler au passage parce que on est souvent taxé de pollueurs, de choses comme ça. Très bien. J'entends, même si...
Utiliser des produits pesticides.
Même si les efforts ont été faits en matière de réduction à la fois de la dérive et à la fois des doses depuis un certain nombre d'années, quoi. Mais par l'action que nous avons de stockage du carbone dans le sol, nous jouons un rôle important. Et nous allons jouer, d'ailleurs, à cet effet, nous avons remis au ministre de l'Agriculture le 26 août dernier, c'est récent, quoi, hein, un rapport sur ce dérèglement climatique pour qu'il puisse être intégré dans le cadre du Varenne de l'eau, qui est porté aujourd'hui au niveau national, pour, nous espérons, avoir des débouchés concrets sur le sujet.
Et pour l'instant, rien.
Ben, c'est en pleine négociation. Le ministre de l'Agriculture, avec qui nous étions en réunion hier soir, nous a attesté que d'ici la fin de l'année, il y aurait des réponses.
Mmh. Je salue aussi Anakin Billon et Inès Roda, tous les deux lycéens à Montpellier. Ils ont fait un peu plus d'une demi-heure de train pour nous rejoindre ce matin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux engagés dans le mouvement Youth for Climate, qui a été lancé par Greta Thunberg. Quand vous entendez les élus, les spécialistes, les professionnels nous expliquer ce qui est fait au réchauffement, pour faire face au réchauffement, ça vous semble suffisant, peut-être, Inès Roda?
Non, pas du tout, parce que on peut remarquer récemment qu'il y a eu beaucoup d'inondations et des feux qui ont été dramatiques. Et moi, personnellement, et même à Youth for Climate et plein de personnes que je connais, nous sommes vraiment inquiets du futur qui va bientôt arriver. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire un maximum de marches et un maximum d'actions pour sensibiliser. Au départ, c'était des marches d'espoir et maintenant, c'est des marches encore plutôt tristes. Et même, on continue, on est là, mais on est encore déterminé, mais on est quand même un peu touché par tout ça.
Anakin Billon, vous êtes sur la même ligne. Il y a quand même des choses concrètes qui sont proposées, effectivement. On entend des propositions.
Alors, oui, on est effectivement sur la même ligne. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, 50% des jeunes de nos âges, un petit peu plus, un petit peu moins, ressentent de l'anxiété vis-à-vis de leur avenir lié au réchauffement climatique et aux problèmes liés au monde. Le réchauffement climatique, effectivement, il se passe des choses concrètes, comme on a pu le voir juste avant, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça passe par les plus grandes instances politiques, par nos gouvernements, mais aussi par les grandes entreprises. C'est à eux aujourd'hui de comprendre que si on veut demain éviter de grands problèmes et de catastrophes sociales et économiques, il faut bouger maintenant.
Et Inès Roda, qu'est-ce qui vous ferait dire « ça y est, c'est gagné, on a gagné notre combat pour lutter contre le changement climatique » ?
Ce serait moins de discours et beaucoup plus d'action, vraiment.
Donc vous attendez beaucoup de la COP26 qui arrive oui, dans 10 jours avec les chefs d'État. Est-ce que ce mouvement, il est vraiment durable, Anakin Billon ? Est-ce qu'on peut penser que la mobilisation va continuer dans ce sens de lutte contre le changement climatique de la part des jeunes comme vous ?
On l'a vu après les confinements, après la crise sanitaire que l'on vient de vivre. Le mouvement a su se relancer à Montpellier. Après le confinement, c'était compliqué. Aujourd'hui, on est plus de 15 à gérer. On est énormément. Alors oui, on est persuadé que les jeunes vont continuer à se mobiliser. Après, pour la COP26, on a effectivement des espoirs sur ce qui va se dire, mais on a très peu d'espoir sur ce qui va se faire. Que l'on soit clair, on le voit avec les dernières COP, par exemple l'accord de Paris. Rien n'a été tenu. Il faut maintenant que ce que les gouvernements disent, ce que les représentants viennent dire à la COP26 soit tenu.
Michel Pierre, si on généralise les bonnes pratiques dont on parlait, si on va un peu plus loin, peut-être en écoutant ces deux militants de Youth for Climate, à quelle échéance on sera prêt, à Nîmes et ailleurs, à faire face aux risques climatiques ?
Alors, d'abord, c'est une très bonne nouvelle que les jeunes se mobilisent et je les vois manifester avec joie dans les rues de Montpellier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui participent aussi, de citoyens, à ces manifestations, qui sont, je vous rappelle, les manifestations les plus propres parce qu'ils ramassent tous les mégots qui ne sont pas issus de la manifestation. Donc, Pour moi, il y a une course, il y a deux courses, monsieur Angelras en parlait. On a 10 ans pour vraiment arrêter les gaz à effet de serre. Et c'est au regard de ça qu'on verra si la machine s'emballe après 2050 ou pas. Le climat de 2050 est déjà écrit. Donc,
Merci beaucoup Michel Pierre, directeur de la mission développement durable du département de l'Hérault. Merci à vous aussi Bernard Angelras, pardon, vice-président de Nîmes Métropole et président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Et merci à Anakin Billon et Inès Roda qui vont reprendre leur train pour retourner en cours, je crois.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
À 13h54 sur France Inter, dernier coup d'œil sur Nîmes et ses alentours, Nîmes ville romaine, et face à l'amphithéâtre depuis quelques années, comme en miroir un musée de la romanité au 21e siècle, 5000 pièces archéologiques exposées dans une œuvre architecturale signée Elisabeth de Porzamparc, lame de verre translucide et jeu de lumière, un musée pour revisiter l'époque romaine, et sur cette période, il y a 2000 ans, on découvre encore des choses, notamment sur la place des femmes, c'est le thème de l'exposition en préparation, dont nous avons pu avoir un aperçu hier avec Geoffrey Marianne de l'équipe de France Inter. Visite guidée avec Laurence Aubry, conférencière. La majorité des œuvres doit encore arriver, mais le musée complète la visite avec des objets maison. Premier arrêt au pied d'une statue. Description Raffaella Gaffa, chargée d'études au service conservation.
La matrone romaine est considérée comme l'accomplissement de toute femme. Il s'agit d'une statue qui représente une matrone d'époque romaine, donc qui nous montre l'exemple parfait de la coiffure et des habits de la matrone romaine d'époque julio-claudienne. Et la matrone, en fait, c'est avant tout l'épouse, la mater familias, la mère, donc celle qui élève les enfants, et qui a ce rôle essentiel dans la société romaine de perpétrer le nom de la famille.
Effectivement, ça c'est l'image idéale de la femme chez les Romains, c'est la matrone, donc c'est la mère et l'épouse idéale qui s'occupe de la maison, de ses enfants, de son époux. Sauf que cette image idéale, en fait, elle est très réductrice et on se rend compte que dans le monde romain, notamment sous le Haut Empire, la place des femmes est beaucoup plus importante que ça et qu'elles sortent de ce cadre-là. Alors, je suis Laurence Aubry, je suis guide conférencière au Musée de la Romanité.
Décrivez-moi donc l'objet devant lequel on se trouve.
Alors, il s'agit d'un fragment et d'une tuile ronde pour les hypocaustes. Donc, c'était les systèmes de chauffage au sol et au mur dans les maisons et dans les thermes. En fait, ça nous permet de parler des femmes qui travaillent. Simplement, les femmes qui travaillent laissent très peu de traces, elles sont très peu citées, très peu représentées. Or là, on voit que sur ces deux tuiles, il y a une estampille, hein, une inscription qui nous dit Clariane. Et le nom du propriétaire, du chef d'entreprise, s'appelait Clarianus. Et à un moment, hein, au IIe siècle, l'inscription n'est plus Clarianus, mais Clariana, ce qui veut dire que celle qui dirige l'entreprise, la chef d'entreprise, hein, est une femme.
Raffaella Gaffa, vous travaillez à la conservation au musée de la Romanité. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que à l'époque romaine, les femmes ont commencé pour certaines à se faire une place publique, mais c'est toujours une sorte de place volée, en fait.
Oui. Sur le plan du juridique, la femme, c'est toujours une mineure. Toute femme était soumise à l'autorité d'un tuteur, le père, ensuite le mari. Si le père et le mari n'étaient plus là, on nommait un tuteur, donc toujours un homme qui s'occupait d'elle, de ses affaires, etc. Mais en fait, on se rend compte que plus on avance dans le temps, on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont capables et qui gèrent leurs biens, leurs affaires en toute autonomie. Donc pour parler un peu des modèles qui détonnent, c'est vrai que là on a parlé du modèle idéal, mais dans l'exposition, ce qui est abordé, c'est aussi toutes ces femmes qui ont, disons, qui sont un peu détachées de ce modèle. Et que pour cela, souvent, l'ont payé assez cher.
Raffaella Gaffa, là, on se trouve dans le musée de la Romanité, qui est un bâtiment d'architecture moderne, qui a été imaginé par une femme, face aux arènes de Nîmes, qui sont un bâtiment donc de l'époque romaine. Et c'est vrai qu'il y a l'idée d'un dialogue entre l'époque moderne, l'époque d'aujourd'hui, et l'époque romaine. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi sur les affiches de l'exposition qui va être en place à partir du 11 novembre. On voit une jeune femme d'aujourd'hui à côté d'une statue romaine. Alors là, quel est le dialogue entre cette exposition sur les femmes et leur place à l'époque romaine et notre époque actuelle ?
Mais disons que, à mon sens, le fait d'étudier ce qui s'est passé à l'époque romaine, d'étudier le droit, de voir d'où viennent un certain nombre des stéréotypes, un certain nombre d'idées. Disons, c'est quelque chose qui est très utile pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, notre époque, elle est très différente de l'époque romaine, mais disons qu'il y a, notamment dans le droit, un certain nombre de choses que, dans nos droits actuels, ont été dépassées il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'en France, les femmes, ça fait pas très très longtemps, c'est je crois dans les années 50, qu'elles ont pu avoir le droit de dire bah, « j'ouvre un compte à mon nom, il fallait que le mari autorise l'ouverture d'un compte ». Un tuteur. Voilà.
Laurence Aubry, on vise quel type de visiteurs avec, avec cette exposition, cette visite guidée? Surtout des femmes ou pas seulement?
Eh ben dans l'absolu, on espère viser tout le monde. Quand on parle de l'histoire des femmes, on parle de l'histoire de tout le monde. C'est justement là ce qu'on essaie de dire. C'est qu'on a fait une histoire exclusivement masculine ou presque pendant longtemps. En redonnant leur place à l'histoire des femmes, en fait, on essaie d'avoir une histoire la plus objective possible en parlant de tout le monde. Et ça devrait intéresser tout le monde.
Exposition portrait et secret de femmes romaines du 11 novembre au 8 mars prochain au musée de la Romanité. Après les infos sur Inter, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidor.
Bonjour Marion.
La journée climat se poursuit, vous êtes dans les Vosges.
Absolument, avec la star de notre nouvelle étape, elle est robuste, elle est montagnarde, elle est rustique et on l'adore déjà, c'est la vache vosgienne dans un instant.
Et pour la préparation de cette émission anime, grand merci à Sarah Guibaudot, à la rédaction en chef assistée de Claire-Sophie Collet pour la partie technique et production. Merci à Dominique Allard, Thomas Robin, Geoffrey Mariam et Marianne pardon, et Ibrahim Seliem et un immense coup de chapeau à France Bleu Gard-Lozère pour nous avoir accueillis dans leurs locaux face aux arènes.